7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
C'est vrai, à l'échelle nationale, avec les questions relatives à l'immigration, le climat, le terrorisme, les droits de l'homme sont-ils dépassés? Une question qu'on se pose en votre compagnie, Justine Lacroix. Bonjour, vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et vous publiez avec Jean-Yves Prancher « Les droits de l'homme rendent-ils idiots ?» aux éditions du Seuil dans la collection de la République des idées. Et vous venez d'entendre cette revue de presse internationale de Camille Magnier, où il était notamment question de la décision américaine vis-à-vis des Kurdes. Les Kurdes, c'est une preuve de plus que les droits de l'homme sont aujourd'hui bafoués à l'échelle internationale.
Ils sont non seulement bafoués, ce qui n'est pas tellement nouveau, ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'ils sont largement discrédités. Et là, je crois qu'on ne peut pas insister assez sur le retournement, mais vraiment qui s'est produit depuis, je dirais, deux décennies. Si vous vous reportez au début des années 90, les observateurs disaient que nous vivions l'ère des droits. Alors ça ne veut pas dire que les droits étaient plus respectés qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais ça veut dire que c'était, au fond, il y avait une adhésion, au moins de surface, au langage des droits de l'homme, qu'il n'était pas possible de critiquer ouvertement. Et dans la période récente, on assiste à l'émergence de dirigeants qui assument délibérément leur volonté de s'affranchir des contraintes des droits de l'homme et qui vont théoriser ça sous la forme de cette formule très imparfaite à mon sens, mais qui s'est imposée dans le débat public de démocratie libérale, cette idée qu'au fond on pourrait avoir des régimes qui respecteraient la volonté majoritaire, des régimes hybrides, mais qui ne respecteraient plus les droits de l'homme. Angela Merkel l'avait souligné il y a un an au moment de l'anniversaire du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle s'était demandé est-ce qu'on signerait encore ce texte aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'échelle internationale pour que la réelle politique, ou ce qu'on appelle la réelle politique, c'est-à-dire l'idée finalement que les nations n'ont pas d'amis, qu'elles n'ont que des intérêts, que si on a intérêt à s'allier avec les Kurdes, on le fait, et puis lorsqu'on n'a plus intérêt à le faire, eh bien on les lâche. Pourquoi, Justine Lacroix, les droits de l'homme sont-ils devenus finalement quelque chose de parfaitement secondaire dans le discours international? Je ne parle même pas des actes.
Oui, je ne sais pas si je lirais ça tellement à l'essor de la réelle politique, parce que la réelle politique, elle a toujours existé. Je dirais, c'est ce qui est nouveau, c'est effectivement l'apparition de dirigeants qui sentent confusément que, enfin, qui en tout cas ont perçu qu'il était possible de prendre ces distances dans leur discours politique avec ce vocable des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme apparaissent à tort, à mon sens, mais enfin c'est un sentiment qui est quand même largement partagé. Ils apparaissent de plus en plus comme au fond une sorte de bien-pensance qui est incapable d'affronter les réalités politiques du jour. Réalités politiques qui ont pour nom une immigration qui est ressentie comme massive, qui ont pour nom des menaces contre la sécurité qui également sont amplifiées. Et donc, les partisans des droits de l'homme apparaissent de plus en plus, je dirais, comme des naïfs qui n'arrivent pas à affronter ces difficultés.
La réelle politique n'est pas née aujourd'hui, mais aujourd'hui, la réelle politique, c'est chic, alors qu'hier, lorsqu'on intervenait, par exemple... Hier, on intervenait et on le faisait au nom des droits de l'homme et on a l'impression, mais peut-être n'est-ce pas la vôtre, Justine Lacroix, qu'on a commis beaucoup de crimes au nom des droits de l'homme, alors, en oui. Syrie, en Libye, un peu partout.
Oui, vous avez. Alors là, vous avez raison, c'est un élément que j'aurais dû souligner aussi, c'est qu'on ne peut pas sous-estimer l'impact considérable qu'a eu la deuxième guerre d'Irak pour décrédibiliser le discours des droits de l'homme. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, on a assisté au fond à une instrumentalisation délibérée, ouverte de la logique, en tout cas du discours des droits de l'homme par la puissance américaine. Et cette instrumentalisation a conduit un certain nombre, et je pense notamment à gauche de l'échiquier politique, mais pas seulement, de personnes à associer de plus en plus ce langage des droits de l'homme à une logique impériale, une logique de domination, si vous voulez, en oubliant un petit peu que l'instrumentalisation ou la manipulation d'un principe à mon sens, ne porte pas atteinte au principe lui-même et qu'il aurait fallu opposer aux États-Unis la vraie signification des droits de l'homme, ce qu'a fait la France aussi, dans une certaine mesure, à l'époque. Mais disons, on a surtout retenu que ce langage des droits avait pu servir à justifier l'invasion.
Au point de considérer que finalement, les droits de l'homme étaient le nouveau visage de l'impérialisme.
Au point, exactement. Ça, c'est une, effectivement, c'est une critique, alors, qui est également ancienne, mais qui a repris, si vous voulez, de la force, l'idée que les droits individuels seraient finalement le masque pris par une forme de domination impériale et également néolibérale, que ce ne serait au fond que les alibis pris par la surpuissance américaine.
Mais est-ce justifié comme critique ou est-ce toujours une manière finalement d'oublier qu'on a en quelque sorte perverti les droits de l'homme?
Ben alors, la critique de l'intervention américaine, quoi qu'on en pense, là-dessus, elle me paraissait tout à fait légitime. Enfin, toutes les critiques, de toute façon, sont légitimes. Ce que je trouve peut-être dommage, c'est que ça aurait été aussi une occasion plutôt de montrer qu'il y avait eu perversion du principe. Et malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis, au fond, à taper de plus en plus sur les droits de l'homme en les associant, et ça c'est un discours qui est très présent chez certains penseurs qu'on dirait de gauche, mais qui de plus en plus se retrouve chez d'autres penseurs situés plus à droite ou plus conservateurs, cette idée qu'au fond, on aurait une association entre le néolibéralisme que... Voilà, que je définirais ici de façon très schématiquement comme l'idée que le libre jeu de l'offre et de la demande est le mode d'organisation optimal de la société et irait de pair avec les droits individuels, avec cette thématique qui s'est beaucoup développée, surtout en France, mais pas seulement, on constate aussi cette critique aux États-Unis, l'idée qu'au fond, eh bien, si vous voulez, le libéralisme, qu'est-ce qu'on appelle le libéralisme sociétal, c'est-à-dire toutes ces réformes qui ont visé à donner des droits, à augmenter les droits des minorités, des homosexuels, irait de pair avec la destruction du droit au travail, avec la dérégulation, avec l'idée ne ferait au fond que favoriser un individu libre de circuler et de vivre comme il le veut sur un marché.
Alors, effectivement, ce qui est très intéressant dans votre livre « Les droits de l'homme rendent-ils idiots ?», livre que vous avez coécrit avec Jean-Yves Prancher, c'est que vous montrez assez bien que cette critique, elle vient de la droite, de la gauche et même du centre. En France, elle est très associée au nom de Nicolas Sarkozy, lequel était encore ministre de l'Intérieur, quand il a publié dans Le Monde une tribune où il s'en prenait aux droits de l'hommisme. Et c'est assez intéressant parce que à l'échelle internationale, là il était président, il n'était plus ministre de l'Intérieur, il est intervenu en Libye au nom des droits de l'homme, mais sur le plan intérieur et sur la question migratoire, alors là, il brocardait le droit de l'hommisme.
Oui, alors, et ça, c'était tout à fait stupéfiant, hein, cette expression de droit de l'hommisme. On a recherché, avec Jean-Yves Prancher, mon co-auteur, on a recherché l'origine exacte de l'expression. Il semble que ce soit Jean-Marie Le Pen, le premier, qui ait forgé cette expression. Puis elle s'est imposée chez... petit à petit chez des responsables politiques tout à fait situés dans le champ plus respectable, dirions-nous, de l'échiquier politique. Mais je dirais que Nicolas Sarkozy ne l'a pas utilisé, évidemment, dans un contexte de dénonciation du néolibéralisme. Il l'a vraiment utilisé dans ce contexte précis, dans lequel il est utilisé tout le temps, qui est la question migratoire, où effectivement, aujourd'hui, le débat oppose de façon, à mon sens, tronquée et manichéenne, un peu d'un côté, on caricature des droits de l'hommiste qui plaiderait pour une sorte de droit universel de circulation à l'échelle du globe et qui voudrait l'ouverture totale des frontières, et puis d'autres, les autres, qui auraient le sens de la préservation de l'intégrité culturelle, le sens de la préservation des équilibres sociaux, et qui donc feraient preuve de plus de réalisme. Alors pour moi, c'est vraiment un débat qui est largement tronqué, parce qu'il n'est pas vrai qu'être un droit de l'homiste, moi j'en ai discuté avec Jean-Yves et nous sommes d'accord
votre
là-dessus.
Votre co-auteur.
Nous nous définissons, puisque comme ça, comme des droits de l'homiste, ça ne signifie pas qu'on soit pour l'ouverture totale des frontières. C'est une caricature.
Alors justement, parce que les droits de l'homme sont considérés, notamment par certains critiques de gauche, comme des droits bourgeois, c'est-à-dire pas des droits réels, des droits qui finalement ne concernent que les plus aisés, c'est ce que vous dites notamment dans votre livre « Les droits de l'homme rendent-ils idiots ?» Et Emmanuel Macron, de manière plutôt inattendue, a utilisé cet argument lorsqu'il a lancé, il y a quelques jours, son débat sur l'immigration. Il a opposé, je le cite, « les bourgeois qui ne croient pas à l'immigration et les plus pauvres qui en sont le réceptacle ». Donc il rentre finalement dans des catégories que vous analysez, Justine Lacroix.
Oui, alors ce serait donc l'idée que les bourgeois n'étant pas confrontés directement aux réalités de l'immigration, ce serait plus facile évidemment défendre les droits de l'homme. Ouais, moi, je voudrais vous dire, sur cette question, on peut tenter de répondre. Nous, ce qu'on a tenté de faire dans ce livre, c'est pas de fermer le débat. C'est vraiment de l'ouvrir, de montrer que l'adhésion aux droits de l'homme n'impose le choix de pratique, de très peu de politique déterminée. Je vais m'expliquer. Prenez cette question du rapport entre droits de l'homme et migration. Est-ce que les droits de l'homme nous obligent, par exemple, si on y croit, à ouvrir les frontières? Je veux dire, la réponse, elle est à la fois oui et non. Oui, dans le sens où si on est convaincu, si on adhère aux droits de l'homme, il est difficile de fermer complètement les frontières. Pourquoi? Parce que fermer complètement les frontières, là, François Héran, le titulaire de la chaire Migration et Société au Collège de France l'a montré, si vous fermez totalement les frontières, vous mettez fin au regroupement familial, vous mettez fin au droit d'asile, vous expulsez les gens vers des pays où ils risquent d'être torturés. Tout ça, c'est contraire aux conventions que nous avons signées en matière de protection des droits de l'homme. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que les droits de l'homme, ça signifie que chaque individu a le droit de s'installer là où bon lui semble? Bah, peut-être si on a une conception très individualiste des droits de l'homme. Mais est-ce que les droits de l'homme, ça ne renvoie pas aussi, ce qui serait plus notre conception, à une liberté collective, liberté d'autodétermination, liberté de délibérer ensemble sur notre avenir commun, ce qui suppose peut-être une certaine forme d'homogénéité, certainement pas ethnique, mais culturelle, c'est-à-dire des principes du vivre ensemble. Et donc vous voyez qu'à partir des droits de l'homme, on a le champ du possible qui s'ouvre, et moi je refuse façon, au fond, d'associer celui qui croit aux droits de l'homme, c'est un bourgeois, et le bourgeois est pour l'ouverture des frontières. Ça me paraît totalement caricatural.
Mais alors, ce clivage-là, parce que c'est un clivage qui, dans le débat sur l'immigration, et là, dans le débat sur la PMA, il y a eu une manifestation importante en France ce week-end. 75 000 personnes étaient dans la rue à Paris. Alors, est-ce que les organisateurs en attendaient plus? Ils en donnaient mon nombre 600 000. Mais en tout cas, il y avait des gens dans la rue à Paris, Justine Lacroix, et eux ont une conception particulière des droits de l'homme. Il est question des droits de l'enfant à naître. Comment articulez-vous finalement votre défense des droits de l'homme? Est-ce que ceux qui sont contre la GPA sont en faveur des droits de l'homme? Dans ce cas-là, ceux qui sont pour la PMA, pardon, j'ai dit la GPA, je parlais de la PMA en l'occurrence pour ce qui s'est déroulé ce week-end. Bref, comment réussit-on à trouver les défenseurs des droits de l'homme?
Écoutez, franchement, vraiment pour préciser le sens de notre démarche à Jean-Yves Franchère et moi dans ce livre, ce n'est pas décerner des brevets de respectabilité. Et donc, je vais être très claire, on peut, à mon sens, avoir des doutes. Je ne dis pas que je partage ces doutes, mais on peut avoir des doutes, alors évidemment sur la GPA, mais sur la PMA et même sur d'autres sujets de société. Je vais peut-être me fâcher avec un certain nombre de mes amis en disant cela, même sur d'autres questions qui sont tranchées maintenant en France depuis longtemps sur la question du droit à l'avortement, par exemple, sans être un opposant aux droits de l'homme. Les droits de l'homme fixent certaines limites. Claude Lefort, un philosophe politique que nous aimons beaucoup tous les deux, Jean-Yves et moi, disait « ce sont les conditions nécessaires mais non suffisantes d'un monde habitable par tous ». Qu'est-ce que ça signifie ? Ça fixe des limites. Mais à partir de là, il y a des tas d'interprétations des droits de l'homme qui doivent s'affronter dans l'espace public. Et vous pouvez avoir des interprétations, je dirais, très libertaires, fondées sur une extension de la liberté individuelle, une extension de la liberté des personnes, et puis des interprétations, je dirais, peut-être plus sociales ou plus conservatrices. Et conservateur, pour moi, n'est pas une insulte. Ce n'est pas parce qu'on est un conservateur qu'on va violer les droits de l'homme. Je dirais, ils ouvrent le champ des possibles. Et donc, il est tout à fait possible, au nom d'une certaine conception de ce que doit être la vie collective, d'avoir des réserves vis-à-vis de la PMA sans être taxé d'être un opposant aux droits de l'homme. Et face à cela, d'autres défendront une autre conception de l'égalité des droits qui conduira. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ça veut dire, Justine Lacroix, que ceux qui étaient dans la rue dimanche contre la PMA sans père, comme ils l'appellent, sont des défenseurs ou peuvent être des défenseurs des droits de l'homme au même titre que ceux qui considèrent que finalement le droit à l'enfant ne nuit à personne.
Alors, je voudrais répondre à votre question, mais juste, je suis un peu mal à l'aise parce que vous savez, on reproche beaucoup aux droits de l'homiste de revendiquer du droit partout. On dit ils ne veulent connaître que du droit partout. Et j'ai envie de dire cette espèce d'inflation de j'ai le droit à, c'est quelque chose qui frappe tout le monde. Je pense pas qu'il y ait un droit à l'enfant. C'est pas ça qui est là dans le débat. La question, c'est de savoir si les techniques de procréation médicalement assistée doivent être réservées à certaines catégories de personnes, en couple hétérosexuel. Mais il n'y a pas un droit à l'enfant que vous pourriez faire valoir. Du côté des conservateurs, il n'y a pas de droit de l'enfant à avoir un père ou une mère. On peut considérer qu'il est désirable, c'est leur cas, souhaitable que chaque enfant ait un père et une mère. Mais si vous perdez votre père ou votre mère, vous n'avez été lésé d'aucun droit. C'est juste un drame affreux et puis voilà. Donc, je veux dire, cette inflation du vocable des droits me met un peu mal à l'aise.
Pourquoi ? Parce que du coup, le terme de droit est galvaudé ?
Oui, il est galvaudé. On a l'impression qu'au fond, tout désir, toute revendication devient un droit à. Or, nous, on a pris nos distances par rapport à cette logique. Une simple revendication, parce que il ne faut pas confondre l'expression d'un désir avec un droit. Pour qu'une aspiration devienne un droit, on ne peut pas faire l'économie d'un débat démocratique, d'une délibération collective qui va faire que cette aspiration va finir par être reconnue ou pas.
Justine Lacroix, les droits de l'homme rendent-ils idiots ? C'est le livre que vous publiez avec Jean-Yves Franchère aux éditions du Seuil. On va continuer d'évoquer les droits de l'homme avec un autre droit, le droit à la désobéissance civile. On recevra dans quelques instants votre compagnie Justine Lacroix, Manuel Cervera-Marzal, il est sociologue, et on va évoquer la notion de désobéissance civile avec cette semaine consacrée à l'extinction, aux rébellions et des mouvements qui se diffusent en France et dans le monde entier. En attendant, il est 8h et je vous souhaite un excellent réveil.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Et justement, on va faire réagir nos invités à la question des libertés publiques, de leur mise en cause ou de leur garantie. Justine Lacroix est dans ce studio, elle est professeure de sciences politiques à l'Université Libre de Bruxelles et vous publiez un ouvrage en compagnie de Jean-Yves Franchère, Les droits de l'homme rendent-ils idiots ? C'est aux éditions du Seuil dans la collection La République des idées. Nous accueillons Manuel Cervera-Marzal, vous êtes sociologue à l'Université Aix-Marseille et vous avez notamment travaillé sur sur les nouveaux désobéissants, les libertés civiles sont-elles aujourd'hui menacées par rapport à ce que vient d'évoquer Frédéric Saïz, Manuel Cervera-Marsal?
Je pense que Frédéric Saïz vient très bien d'expliquer la logique. En fait, on ouvre une petite porte, on met le doigt dans un engrenage, on ne sait pas jusqu'où il va nous conduire. Là, il expliquait qu'il y a la question de la reconnaissance faciale qui était mise sur la table par le gouvernement. Bon, effectivement, on peut imaginer qu'il y aura tout un tas de garanties, d'instances de contrôle pour que tout ça soit fait avec notre consentement et que ça n'aille pas trop loin. Mais il n'a échappé à personne qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la planète, la moitié des gouvernements sont de droite extrême ou d'extrême droite. Donc demain, quand ce type d'outil tombera entre les mains de ses apprentis sorciers, qu'est-ce qu'il en sera? Par ailleurs, sur le deuxième élément qui mentionnait, la question de la fraude fiscale, moi je me réjouis de savoir que le gouvernement entend désormais lutter contre la fraude fiscale. Mais je vois à nouveau combien ça risque effectivement de porter atteinte aux libertés individuelles. Et donc si c'est vraiment la fraude fiscale la préoccupation du gouvernement, moi je tiens à sa disposition la liste de toutes les multinationales françaises comme étrangères qui pratiquent l'évasion à hauteur de 80 milliards par année. C'est très facile d'aller récupérer cet argent plutôt que de s'en prendre aux particuliers et de menacer leur liberté. Il y a aucun souci à ce niveau-là. Et par ailleurs, si vraiment on est cohérent et qu'on souhaite lutter contre la fraude fiscale, on ne fait pas ce que vient de faire ce gouvernement, ne supprime pas des dizaines, voire je ne sais plus, peut-être des centaines de postes dans les services chargés d'aller contrôler les grandes entreprises.
Justine Lacroix, où sont les droits de l'homme là-dedans? Si par exemple une collectivité décide de se doter des moyens de faire respecter les lois, mettons la question de la fraude fiscale, est-ce qu'on a le droit de transiger quand même avec certaines libertés qui peuvent être perçues comme secondaires par rapport au but ultime qui serait donc là en l'occurrence que tout le monde paye l'impôt?
Alors, il est toujours possible de déroger aux droits de l'homme, mais il faut que l'objectif poursuivi soit, comme disent les juristes, proportionné. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit la protection de la nation, la protection de la démocratie ou des choses comme ça. Donc je pense qu'effectivement, je suis pas sûre que la lutte contre la fraude fiscale, comme vient de le dire Manuel, impose de déroger aujourd'hui à ces libertés. Je ne me semble pas non plus que le but soit proportionné. Mais moi, ce que me frappait, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce qui m'interpelle beaucoup, et c'est une question que nous sommes posés aussi avec notre co-auteur, c'est au fond, pourquoi est-ce que ça se passe dans une relative indifférence, cette atteinte aux libertés publiques qui se constate effectivement en France, mais qui se constate aussi en Allemagne, en Grande-Bretagne, depuis une quinzaine d'années. Grosso modo, ça date à peu près du 11 septembre 2001 qu'a commencé ce processus. Pourquoi? Alors, dans une relative indifférence, il y a des voix, on entend des gens crier, on parlait de François Sureau, on pourrait en citer d'autres grands magistrats ou fonctionnaires, juristes, pas des activistes révolutionnaires, mais qui s'inquiètent de ces attaques. Je crois que c'est que pour l'instant, la très grande majorité d'entre nous n'en subissons pas les effets. Et beaucoup de vous répondront, mais enfin, c'est pas vrai qu'on porte atteinte à l'état de droit, c'est pas vrai que nos libertés sont menacées. Nous n'avons jamais eu autant de droits, ce qui est pas totalement faux. Mes droits à moi, si je veux dire, et je crois dans large mesure, n'ont pas régressé ces dernières années, n'ont pas été menacés. Mais pour l'instant, ces dispositions ou cette logique de surveillance, de soupçons, d'intrusion, ne visent que certaines catégories de la population. Et donc, comme nous n'en subissons pas les effets, ça s'opère dans une relative indifférence en oubliant qu'il suffit un jour qu'une majorité politique vienne au pouvoir qui pourrait être plus inquiétante pour que ces nouveaux instruments s'abattent sur tous.
Alors la question c'est notamment la fin justifie-t-elle les moyens? Il y a aujourd'hui une inquiétude écologique, une inquiétude climatique, celle-ci a donné lieu à un mouvement qui est en ce moment en cours, notamment en France, mais dans le monde entier, le mouvement Extinction Rébellion. Et hier, Ségolène Royal, sur France Inter, s'est exprimée au sujet de ce mouvement. On l'écoute.
Il y a une instrumentalisation de l'écologie par ces groupes violents. Il faut les réprimer très, très rapidement parce que c'est une dégradation de l'image de l'écologie, de l'image de l'environnement, et ça risque de disqualifier toutes les actions pro-environnementales qui risquent d'être associées à ce type d'agression et de violence.
Encore un mot, le Sénat...
L'écologie, c'est la paix. Vous voyez, l'écologie, c'est la paix. Donc la violence, c'est tout à fait le contraire.
L'écologie, c'est la paix, mais c'est la contrainte aussi, vous dites.
Ah oui, c'est la contrainte aussi, c'est le rapport pollueur-payeur, etc. Ce sont des règles, c'est de la discipline, mais c'est la paix, c'est quelque chose qui doit conduire à l'apaisement des sociétés.
La voix de Ségolène Royal. L'écologie, c'est la paix contrainte, Manuel Cervera-Marzal.
Oui, bon, je passe très rapidement sur le cas de Ségolène Royal qui en appelle à la répression. Ça me rappelle Luc Ferry, hein, il y a quelques mois, là, par rapport aux Gilets jaunes qui appelaient à tirer à balles réelles sur les Gilets jaunes. C'est toujours cette figure, que ce soit de droite ou de gauche. Hein, mais
on n'a pas appelé à tirer.
Non, si, si, sur Radio Courtoisie, elle a pas appelé à tirer Ségolène Royal, elle a appelé à réprimer simplement. Mais voilà, on voit comment ces figures comme ça de la grande bourgeoisie, tout propre sur elle, qu'elle soit de gauche ou de droite, on voit comment la façade se fissure quand ils prennent peur, ils en appellent, voilà, tout de suite à la répression.
Mais elle a raison d'avoir peur.
Est-ce qu'elle a raison d'avoir peur? À mon avis, elle a pas peur des bonnes choses. Elle a peur de militants non violents qui luttent pour l'intérêt général et en l'occurrence pour la préservation de la biodiversité et de la planète. Elle a peur de ces gens-là, au lieu d'avoir peur précisément des 2 degrés de réchauffement climatique qui vont amener 300 millions de personnes à migrer vers d'autres pays. Donc je pense qu'elle se trompe quand elle désigne Extinction Rébellion comme violent, puisque la violence, elle est où? Si on regarde ce qui s'est passé, elle parle d'un événement très concret qui s'est passé samedi soir et samedi dans la journée, à savoir l'occupation d'un centre commercial Italie 2.
Les droits de l'homme d'aller faire leurs courses chez Italie 2.
Voilà, c'est important de pouvoir aller consommer. En moyenne, on utilise 4 fois un vêtement dans sa vie, un Français utilise 4 fois un vêtement avant de le mettre à la poubelle. Donc c'est très important.
Ça
de
me paraît
consommer.
Peu, mais
oui. Et pourtant c'est les statistiques. Non, elle est où la violence? Samedi, il y a eu une seule violence contre les personnes. Elle a été commise par le fait que les forces de l'ordre ont aspergé dans un endroit clos. Hein. On était dans un centre commercial, un endroit confiné. Ils ont aspergé de gaz lacrymogène à l'intérieur. Il n'y a eu aucune violence, en revanche, des occupants contre les forces de l'ordre. Et par ailleurs, si on essaye un petit peu de creuser cette notion de violence, il faut voir que s'en prendre à un centre commercial comme ça, c'est s'en prendre au temple de la consommation, à ses publicités, ses panneaux publicitaires extrêmement polluants qui sont allumés toute la nuit. Moi, j'ai habité 2 ans au-dessus d'Italie 2, je peux vous le dire, les lumières, elles sont allumées toute la nuit. À l'intérieur, il y a des banques qui investissent plusieurs milliards dans les énergies fossiles. Voilà, il faut être aveugle pour pas comprendre qu'en s'en prenant à ce symbole, on s'en prend à ce qui aujourd'hui est la plus grande violence structurelle dans notre monde, à savoir la menace que le système productiviste dans lequel on vit fait peser tout simplement sur le vivant.
Qu'est-ce que vous en pensez, Justine Lacroix? Parce qu'on entend monter un discours qui consiste à dire, si finalement des mesures démocratiques ne sont pas prises pour que le climat, pour que l'écologie retrouve la première place, puisqu'il y aurait urgence écologique, eh bien, on aura la possibilité, ou on en viendra à des mesures non démocratiques.
Oui, c'est effectivement une des questions les plus redoutables qui se posent aujourd'hui à tous ceux qui travaillent sur la question du politique, c'est de savoir si la démocratie, telle qu'on la pratique, telle que nous la comprenons, est en mesure de répondre aux défis climatiques. Et personnellement, c'est une question à laquelle je n'ai vraiment pas de réponse.
C'est dommage parce que j'allais vous poser la question.
Oui, j'ai bien compris, mais c'est de savoir est-ce que face à l'urgence à laquelle nous sommes confrontés, est-ce que nous y parviendrons par la délibération démocratique? Je ne sais pas. Mais par contre, il y a un autre argument qui consiste à dire on va devoir restreindre les libertés si il faudrait au fond plus de contraintes en la matière et donc restreindre les libertés individuelles, porter atteinte à ce qu'on comprend comme les droits de l'homme pour préserver l'environnement. Je crois que là, par contre, c'est une mauvaise compréhension des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est pas la liberté de faire tout ce qu'on veut. Vous n'êtes pas libre de consommer de la cocaïne, vous n'êtes pas libre de fumer en public. Aujourd'hui, on n'a pas porté atteinte. Pourquoi? Parce que vous portez atteinte à la santé des autres. Je peux pas faire un boucan d'enfer à 4 heures du matin dans mon appartement parce que je gêne les jaunes. Donc si on doit en venir à des mesures qui consisteraient à dire, être un peu radical, dire ben voilà, vous pouvez prendre l'avion une fois par an, pas plus, voire pas du tout, pendant un temps, parce que il faut limiter drastiquement nos possibilités de consommation. Pour moi, si c'est, c'est pas une atteinte aux droits de l'homme. Il faut avoir une compréhension un tout petit peu plus large. Les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme en relation, les droits de l'homme en société. Donc, si la société est menacée par l'exercice de ma liberté individuelle, Eh bien, la logique des droits de l'homme veut qu'on restreigne cette liberté individuelle.
Manuel Cervera-Marsal, que signifie l'expression qui est désormais très souvent employée de désobéissance civile?
Je vous remercie pour cette question, parce qu'effectivement, il y a une inflation de ce terme actuellement et on prend rarement le soin de la définir. C'est simple, désobéissance civile, il y a deux mots. Désobéissance, ça veut dire que c'est une action qui est illégale, et civile, ça veut dire que c'est une action non violente. Donc, désobéissance civile, c'est des actions du type, par exemple, de celle du mouvement des droits civiques, qui vont, avec des Afro-Américains, qui vont rentrer dans une bibliothèque interdite aux Noirs ou dans un fast-food interdit aux Noirs en disant, regardez, la législation est injuste, et donc quand il y a un conflit entre ce que dit la justice et ce que dit la loi, je suis autorisé à faire prévaloir la première sur la seconde, donc à désobéir à la loi. Voilà, c'est aussi simple que ça, désobéissance civile.
Bon, mais alors, le problème, c'est que ça, c'est la vieille question d'Antigone, il y a une loi au-dessus de la loi des hommes, mais justement, comment le juge-t-on, comment considère-t-on, Manuel Cervera-Marsal, qu'il y a là un principe qui, même s'il est légal, est en réalité immoral, ou devrait être modifié, amendé?
Tout à fait, vous avez raison, le risque, en fait, à partir du moment où on dit qu'on peut tolérer, voire qu'on peut justifier certaines pratiques de désobéissance, c'est de dire, mais est-ce que ça va pas plonger la société dans le chaos généralisé? Est-ce que si j'autorise, je sais pas, Extinction Rébellion à occuper un centre commercial, est-ce que demain, je sais pas, moi, tel patron qui met son argent en Suisse va pas dire, moi aussi j'ai le droit de désobéir et de planquer mon argent en Suisse, ou bien tel terroriste va pas nous dire, moi aussi.
C'est ce que disent d'ailleurs les libertariens américains, ils disent que ils n'ont absolument pas nécessité de se soumettre à l'impôt, puisque l'impôt n'est pas volontaire et qu'ils peuvent donc décider de faire sécession.
Et c'est pour ça que toute désobéissance n'est pas de la désobéissance civile. Pour que ce soit de la désobéissance civile, il faut que ça se fasse dans l'intérêt général, c'est-à-dire protéger les droits de l'homme, c'est-à-dire protéger la planète, mais aller planquer son argent ailleurs, c'est pas l'intérêt général. Donc un premier critère, c'est celui-là, le bien commun, l'intérêt général. Un deuxième critère essentiel, c'est que la désobéissance civile, elle est la désobéissance n'est civile que si elle est non violente, c'est-à-dire si vous n'injuriez pas et encore moins vous ne blessez vos adversaires. Voilà, là il y a un critère aussi qui est important à respecter. Et le troisième critère, c'est que cette désobéissance se fait à visage découvert. Y a pas de, voilà, on n'est pas caché, on assume ses actes, on les assume d'autant plus qu'on est convaincu que si on est en train provisoirement de se soustraire à la loi, c'est au contraire pour ensuite réaffirmer la loi sous une forme plus juste et plus digne.
Justine Lacroix, je vais continuer à vous embêter sur la question de l'écologie et des droits de l'homme. Si je considère par exemple que ma liberté et surtout mon droit au bonheur, puisque j'ai un droit au bonheur en tant qu'être humain, passe par, je ne sais pas, des voyages en avion, des tours du périphérique en voiture diesel, bref, un certain nombre de pratiques qui pollue, en quoi mon droit doit-il être obéré au nom du droit de générations futures que je ne connais pas, qui n'ont pas nécessairement vocation à naître? Comment finalement hiérarchiser les priorités? Vous qui avez réfléchi sur cette question dans Les droits de l'homme rendent-ils idiots aux éditions du Seuil?
Mais je dirais toujours, alors le droit au bonheur, c'est vrai que c'est formulé dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, pas vraiment dans la déclaration française des droits de l'homme. Bon, alors toute la question est évidemment de savoir comment on définit une bonne vie, comment on définit le bonheur, mais même sans rentrer dans ces considérations-là, les droits de l'homme, je disais il y a un instant, ils naissent du fait que je ne suis pas seul sur la Terre. Ça, c'est une formule d'Anna Arendt, qui est un auteur qui a beaucoup compté dans notre réflexion à Jean-Yves Franchère et à moi sur les droits de l'homme. Elle disait les droits de l'homme existent parce que nous sommes une pluralité d'êtres humains. Elle disait, au fond, la loi naturelle, la loi divine, elle serait possible même s'il n'y avait qu'un seul être humain. Alors pourquoi est-ce que je tiens ce propos qui peut sembler un peu abstrait? C'est de dire, privé de cette notion de pluralité, de cette notion que nous ne sommes pas un seul homme sur la Terre, mais que nous sommes plusieurs hommes et femmes sur la Terre, privé de cette dimension de pluralité, il n'y a plus de droit. Donc celui qui ferait, je dirais, faire prévaloir son désir individuel, parce qu'il n'y a pas de droit de l'homme, je n'en connais pas en tout cas, à circuler, à aller en avion, visiter tous les pays du monde ou à consommer à outrance. Celui qui ferait passer ses désirs individuels contre le respect de cette pluralité, le respect de cette vie en société, n'est pas, à mon sens, dans une logique de droits de l'homme. Je pense que ce n'est pas très difficile à établir.
Manuel Cervera-Marzal.
Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qu'explique Justine Lacroix. Il n'y a pas de droit, et a fortiori de droit de l'homme, sans limite à ses droits. La question, c'est de savoir qui pose la limite à ses droits. Est-ce que c'est un dictateur qui est là et qui décide en solitaire et qui, par ailleurs, s'appuie ensuite sur une armée répressive pour faire obéir? Ou est-ce que c'est un peuple délibérant, votant, qui se fixe lui-même ses limites? Mais en tout cas, il faut fixer des limites. Vous n'avez pas le droit de fumer un paquet de cigarettes dans une maternité. Ça choque absolument personne aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, on n'a plus le droit de prendre l'avion à tout va parce que l'avion à tout va, la pollution, aujourd'hui en France, c'est des dizaines de milliers de morts par an. Donc voilà, il y a des mesures draconiennes à prendre en place. Et j'ajouterais, parce qu'on entend souvent qu'elles vont tous nous toucher, mais elles vont pas tous nous toucher dans la même dimension. Aujourd'hui, les 10% des Français les plus riches polluent, émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la question de la justice écologique, elle est extrêmement liée à la question de la justice sociale, parce que peut-être que les classes populaires françaises ne prônent pas autant de valeurs écologiques, n'ont pas cette morale écologique des plus aisés, mais par contre, quand on regarde dans leurs pratiques très concrètes au quotidien, les classes populaires françaises, vous inquiétez pas, elles éteignent la lumière derrière eux, elles ferment le robinet, elles consomment pas beaucoup de viande et elles prennent pas l'avion parce que tout simplement, elles doivent faire attention aux fins de mois.
Justement, la consommation de viande, on a parlé des droits de l'homme par rapport aux droits de la planète, et puis le droit, les droits des animaux. Il y avait hier dans Les Pieds sur Terre, l'interview d'une personne que je vais vous faire entendre.
Qu'est-ce qui est violent en fait? C'est d'assassiner des individus qui ont envie de vivre, leur faire subir une vie et une mort de misère, ou s'attaquer à du matériel qui va être remboursé par les assurances. Qu'est-ce qui est violent? Qu'est-ce que la notion de violence en fait? Moi je trouve pas que j'ai été violente par rapport à toutes ces vies qui sont assassinées, je suis pas violente en fait. Moi j'ai pris la vie de personne, je m'attaque pas à des personnes, je m'attaque à un système. Ces boucheries, ces restaurants, je me suis pas attaquée aux gérants personnellement, je ne les connais pas, je ne sais pas qui c'est, je m'en fous, enfin je veux dire voilà, ils m'indiffèrent au plus totalement, c'est leur commerce et c'est sur quoi ils s'enrichissent. Enfin je suis contre ça et c'est ça que j'ai voulu attaquer. On n'est pas insensé, on n'est pas débile, on a fait du repérage avant, on savait pertinemment que dans les commerces qu'on allait incendier, il y avait strictement personne et il y aurait eu quelqu'un, on n'y serait jamais allé. Le but, ça n'a jamais été d'intenter à la vie personne, de qui que ce soit. C'était la dégradation matérielle, pure et simple. Et la preuve en est, c'est que nous n'avons tué ou nous n'avons blessé personne.
À 8h39 sur France Culture, on évoque les droits à la désobéissance civile. Nous sommes en compagnie d'un sociologue, Manuel Cervera-Marzal, et d'un professeur de sciences politiques, Justine Lacroix. On vient d'entendre cette femme qui a mené un certain nombre d'actions contre des boucheries, des actions qui consistaient à dégrader des biens, mais qui, effectivement, Dieu merci, n'ont blessé personne. Et elle invoque ces animaux qui sont tués pour l'industrie de la viande. Comment c'est-vous ?
Alors, c'est compliqué parce que je partage, si je voulais dire, l'indignation ou la consternation de la personne qu'on vient d'entendre par rapport aux pratiques de l'élevage industriel. Là-dessus, il n'y a pas de doute dans mes yeux et à mes yeux. Mais ce qui est évidemment... peut-être aller plus loin, c'est qu'à plusieurs reprises, si je ne me trompe, elle parle de ces animaux en disant « ce sont des individus, ce sont des personnes ». Alors, évidemment, ça me met un peu mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que ça renvoie un peu à cette idée, c'est que dont on parlait quand je parlais de l'inflation du langage des droits tout à l'heure. C'est comme si, aujourd'hui, il n'était pas possible de concevoir que nous pouvons avoir des obligations très fortes sans qu'il y ait un droit en face. Je m'explique, je peux avoir l'obligation, le devoir et être condamné au pénal si je manquais à ces devoirs, des devoirs de respect des animaux, sans pour autant considérer que l'animal est une personne, est un sujet de droit. Donc, vous voyez, et c'est un peu cette impression, mais l'impression que si on veut protéger des êtres sensibles, ce qui me paraît un objectif totalement légitime, on ne peut les présenter que comme des sujets de droit. pourquoi est-ce que moi, ça me met mal à l'aise? Pourquoi est-ce que je continue? Mais peut-être je suis prête à évoluer là-dessus. Et d'ailleurs, mon co-auteur et moi, on n'est pas tout à fait d'accord sur cette question. Pourquoi j'ai certaines difficultés à concevoir que les animaux aient des droits? Parce que pour moi, les droits sont liés à la revendication. Il faut des droits, ça se revendique. On les attribue pas. Et donc, le fait est que pour l'instant, les animaux, en tout cas, ne sont pas en capacité de revendiquer leurs droits.
Manuel Cervera-Marzal, toute cette semaine, le mouvement Extinction Rébellion a annoncé un certain nombre d'actions dans la mouvance, donc de la désobéissance civile. Jusqu'où aller? Alors, on vient d'entendre cette militante animaliste. A-t-elle raison lorsqu'elle dit que ce qu'elle fait n'est pas violent, en tout cas moins violent que ce que l'on inflige aux animaux?
C'est, pour moi, ce qu'on a entendu là, c'est pas tout à fait de la désobéissance civile, parce que aller s'en prendre la nuit, donc en fait finalement de manière dissimulée, un peu clandestine, à la vitrine d'une boucherie, ça ne respecte pas l'un des critères que j'énonçais tout à l'heure de la désobéissance civile, qui est d'agir à visage découvert. Par ailleurs, elle passe un peu trop rapidement, à mon sens aussi, sur la question des vies mises en danger. En fait, à quel point est-elle certaine qu'il y avait personne dans cette boucherie, dans le bâtiment dessus? Voilà. Il y a, je crois vraiment, c'est pour ça que je prône une non-violence relativement ferme. C'est que avec la non-violence, au moins, si on fait une erreur, on cause pas de mal à autrui, on cause pas de mal à notre adversaire. La seule personne à laquelle on cause un tort, c'est à nous-mêmes, parce qu'en désobéissant de manière non-violente, effectivement, on risque de se faire réprimer, on risque d'aller en prison. Donc voilà, il y a toujours possibilité de revenir en arrière. Après, cette gêne que j'ai vis-à-vis, disons, du moyen d'action, ne remet en aucun cas en cause la sympathie que je peux avoir pour la cause poursuivie, à savoir dénoncer effectivement le traitement que l'industrie agroalimentaire fait subir aux animaux. Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens, et de fait, il y a eu des actions de désobéissance non violente qui répondent aux critères que j'ai énoncés, comme par exemple rentrer dans des abattoirs industriels, c'est une violation de la propriété privée, pour filmer tout simplement les pratiques qui se font là-dedans, parce qu'évidemment cette industrie diffuse des clips publicitaires avec une image complètement aseptisée de ce qu'elle fait. Oh, les bons bovins, les bons porcins qu'on traite de manière, vous imaginez, la plus embellie possible. Mais non, c'est pas ça la réalité. Donc rentrer, juste filmer et apporter ça à la connaissance du public, je pense que c'est, en mon sens, des actions plus judicieuses pour porter la cause, disons, animale.
Mais alors précisément, lorsqu'on prend ce mouvement Extinction Rébellion, à quoi ça sert de bloquer le centre et Italie 2? Alors évidemment, cela empêche les gens qui veulent faire leurs courses là-bas, mais pour le reste, quelle peut être la portée politique? Finalement, on a entendu des gens dire que le capitalisme n'était pas déstabilisé parce que un centre commercial était bloqué, même si d'ailleurs tous l'étaient une journée. Qu'est-ce que ça changerait, Manuel Cervera-Marzal?
Évidemment que le capitalisme n'est pas tombé après l'occupation d'Italie 2. Mais bon, à ce titre-là, on rentre chez soi et puis on allume la télé. Non, mais il faut bien commencer quelque part, et il faut bien commencer d'une certaine façon. La désobéissance civile n'est absolument pas, d'ailleurs, j'y insiste, une garantie absolue de victoire. Mais par contre, elle a quand même fait ses preuves dans l'histoire. Il y a tout un tas de travaux historiques sur le long cours qu'on fait comme ça, des comparaisons entre différents mouvements de contestation. Alors on fait varier les critères, est-ce qu'il y a beaucoup de monde ou pas beaucoup, est-ce que c'est violent ou non violent, est-ce que c'est légal ou illégal, on fait varier comme ça les critères, et ce qu'on s'aperçoit, ce dont on s'aperçoit, une série de travaux notamment produits à l'université de Columbia le montre, c'est que la désobéissance civile, si elle ne réussit pas à tous les coups, fait en revanche partie des modes d'action aujourd'hui les plus efficaces pour amener de nouveaux sujets de société dans le débat, comme par exemple la question des OGM, la question des pesticides, dont on parle régulièrement sur France Culture, parce que quelques années plus tôt, des militants ont pris des risques pour amener ces questions sur la table.
Un mot de conclusion, Justine Lacroix.
En conclusion, moi, ce que je dirais, c'est peut-être se resserrer sur le sens politique des droits de l'homme, et peut-être éviter de diluer le mot de droit pour désigner des tas de situations qui ne sont pas directement liées. Et je pense, il me semble peut-être qu'en invoquant le droit sans cesse, eh bien, du coup, on perd de vue l'essentiel, qui est de défendre cette dimension politique et collective des droits de l'homme.
Justine Lacroix, le livre que vous avez publié avec Jean-Yves Prancher, « Les droits de l'homme rendent-ils idiots ?» est aux éditions du Seuil, vous restez avec nous, ainsi que Manuel Cervera-Marzal. Je vous présente mes trois camarades qui viennent prolonger cette émission. Bonjour à tous les trois. Hervé Gardette.
Bonjour. Le bruit et l'odeur ce matin.
Mathilde Serrel.
Les écrivains morts n'ont jamais été aussi vivants.
Et enfin, Aurélien Bélanger.
Zelda, le harcèlement scolaire et les dîners en ville.